Ouais, salut à tous, vous êtes bien sur ND Chaîne. Et en ce lundi, on avait envie de passer le 9e épisode d'une série documentaire qui s'appelle Nucléaire, la fabrique de l'oubli, qu'on représentera un peu plus tard dans l'émission. Et cet épisode, ça parle notamment de l'extraction de l'uranium au Niger, au Mali et en Australie. Et du coup, on va aussi parler un peu plus précisément de l'extraction de l'uranium avec des recherches faites par ND Chaîne. L'industrie nucléaire a le vent en poupe, c'est qu'elle est la plus adaptée pour produire l'énergie dont ce monde capitaliste a besoin. Qu'importe sa nocivité ou ses dangers, radiation, déchets, cancer, elle n'est que l'extrême caricature d'un système industriel basé sur l'exploitation de certains et qui produit sans cesse des nuisances. Pétrochimie, agroalimentaire, amiante, nanotechnologie, cancer toujours. Le nucléaire ne disparaîtra donc que si une nouvelle énergie économiquement plus intéressante est à même de le remplacer. Ou si un mouvement de protestation de grande ampleur, ayant pour base les populations locales, entre en conflit direct avec l'État, sans chercher à négocier ni à le convaincre, mais à le considérer pour ce qu'il est, un ennemi, un péril pour notre existence même.
Voilà, on pourra dire que le ton est donné, il est question ce soir éventuellement de battre, remettre en question notre mise en péril évidente par le nucléaire.
Du coup aussi, en fait, ça ne va pas juste parler des conséquences directes de ce que pourrait advenir une catastrophe nucléaire, mais de ce que vivent déjà les travailleurs qui extraient l'uranium. Et du coup, c'est déjà la catastrophe pour eux avant même qu'il y ait une catastrophe nucléaire.
C'est une catastrophe pour les travailleurs, mais aussi pour toute la population alentour des sites miniers, comme on le verra. Et puis plus largement, pour tous ceux qui subissent les politiques coloniales et politiques de guerre menées en Afrique, notamment pour s'accaparer les ressources dont l'uranium fait partie.
Et voilà, et comme le sujet est grave, moi je vais essayer de trouver dans tout ce bordel un petit peu d'optimisme. De toute façon, on va voir si on y arrive. Donc le sujet, vous l'aurez compris, c'est l'uranium. Comme je vous le disais, le sujet est grave et voyons voir donc s'il est possible de faire un peu d'optimisme optimiste en parlant donc d'uranium. Alors j'avoue que l'exercice n'est pas simple, même si le corps de l'uranium l'est, enfin c'est tout du moins ce qu'on nous dit dans la définition. C'est un corps simple, donc en métal gris toxique, présent dans plusieurs minerais, où il est toujours associé au radium, élément lui-même radioactif naturel. Et donc l'uranium est un mélange de trois isotopes, l'uranium-238, l'uranium-235, l'uranium-234. Isotopes, ça veut dire qu'ils se ressemblent. Mais aussi simple soit-il, en fait, il semblerait que la nuance économique et militaire, eh bien, elle soit dans ces trois chiffres, le 238, le 235 ou le 234. Car l'uranium enrichi ou appauvri n'est pas forcément que notre ami, ça on vous l'a déjà dit, tantôt 235 avec 92 ou plus ou moins d'isotopes, il est dans tous les cas définitivement le plus lourd des matériaux de toute la Terre. Alors déjà un peu sympa, on fait dans le Guinness Record, ça pour se faire plaisir, alors Guinness Record bien sûr je parle pas de bière, on dira que 1 mètre cube d'uranium pèse presque 20 tonnes. 20 tonnes, ça fait 20 fois plus lourd que l'eau quand même, mais aussi 2 fois plus lourd que le plomb. Enfin presque. Enfin, je vais faire un peu dans... genre j'arrondis quoi. Mais là-dedans, sur 1 kg, en fait, il n'y a que, et sur 1 kg ou plus ou moins, on pourra dire qu'en fait, en réalité, il n'y a que 0,71% d'uranium-235, moins d'1%. Et c'est celui-là qui intéresse tout le monde, car il est fissible. C'est-à-dire qu'on peut le casser, le défoncer. Et avec lui, ça, on sait le faire, avec le 235. Et patatras, forcément, il produit une chaleur de ouf. Donc, ça a filé, pour le coup, plein de bonnes idées à des gens, l'uranium. D'abord, dans un passé très lointain, ils s'en servaient pour faire des pigments pour la céramique. Alors, comme quoi, on peut quand même faire des trucs sympas. Bon, bien que ce soit quand même difficile de savoir si ça n'a pas coûté la vie à certains. Mais bon, bien plein plus tard. Et encore là, une bien jolie histoire, ça a été découvert en Prussie en 1789. Enfin, en Prussie, par un Prussien, quoi. Alors que nous, les François, en 1789, on vivait plutôt la fission démocratique. Donc, ils ont appelé ça l'urane. Et encore, petite histoire, c'était en hommage à Uranus. Uranus, découverte peu avant. Alors, vous voyez que le sujet, en fait, il peut quand même être sympa. Et ça continue parce qu'en fait, les François, oui, là, en piste déjà, découvrent 50 ans plus tard que là-dedans, il y a du métal et de l'oxygène. Super découverte. Donc, ils ont appelé ce métal l'uranium, puisqu'il venait de l'urane. Puis voilà. Ils ont encore attendu 50 ans. Et là, il y a eu Becquerel. Alors, peut-être vous avez déjà entendu parler de Becquerel. Eh bien, lui, en fait, il en avait un peu à la maison. Et un peu trop sans faire gaffe, juste parce qu'il les avait laissés, il avait laissé ce bout de caillou à côté d'une boîte de papier photo, et il a remarqué que le papier avait été exposé. Waouh ! Il venait de découvrir la radioactivité. Chapeau le mec, quand même chapeau. Donc tout ça, c'était 10 ans avant sa mort, à 56 ans. Ça, c'est juste pour le plaisir, quoi. Dans tous les cas, voilà, ça, c'était en 1896, et il aura fallu entendre encore 50 piges pour qu'ils trouvent ce qu'ils auraient pu faire, ce qu'ils auraient pu en faire. Et 50 ans, là, ça nous ramène où ? 50, 96, 1938-39. Ah, souvenir. 1938-1939, entre les Américains, les Allemands, les Russes, les Danois, les Suédois, les Anglais, les Français, eh bien, ils découvrent tous la fission. Enfin, un truc à faire avec ce truc. Et alors, ils vont s'en donner à cœur joie. Et peut-être que là, ça vous parle. Avec un peu d'optimisme et de rapidité, on arrive à... Et là, ils n'ont pas eu besoin de 50 ans. Non, 6 ans plus tard. 6 ans plus tard, on est en 1945. Eh oui, Enola Gay, le Boeing B-29 qui va larguer le 6 août 1945 à 8h15 du matin, la première bombe A comme atomique. Little Boy, ils l'ont appelé. Vous voyez qu'on peut se marrer, hein. Voilà, ils ont atomisé la ville d'Hiroshima. Voilà, elle explose à 580 mètres au-dessus d'Hiroshima. En un millionième de seconde, l'énergie thermique libérée dans l'atmosphère transforma l'air en une boule de feu d'un kilomètre de diamètre. Au sol, la température atteint plusieurs milliers de degrés. Bâtiments et habitants prennent feu instantanément. Sympa, non ? Sympa. Voilà, non pas qu'il y ait eu grand-chose à détruire à ce moment au Japon en général. Eux-mêmes subissant déjà les bombardements incessants des ricains depuis plusieurs mois. Mais là, c'est un peu la théorie des vases communicantes. Ils ont réussi à casser un atome en Amérique et l'effet papillon a rasé deux villes et leur population à plus de 10 000 km de là. 150 000 morts en quelques secondes. Alors encore sympa. Mais comme je disais, revenons à l'optimisme et à l'uranium. Il y a plein de trucs sympas à savoir. Je vous le disais, si tu extrais une tonne de minerai, t'as au mieux 5 kg d'uranium. Mais t'as plus de chances d'avoir qu'un kill. La dent ne t'intéresse que 0,71% du truc. Le 235. De la pure, quoi. Le blême, c'est que le reste du kilo, il est radioactif. Méchant, en plus. C'est le 238. Les restes, un peu la coupe, comme le crack, quoi. Mais en plus, a priori, la tonne extraite de minéraux, eh bien, elle est radioactive aussi. Ah, ça en fait un peu du bordel. Alors, après, tes 0,71%, si tu les utilises, ils deviennent appauvris, disent-ils. C'est aussi une partie du 238 qu'ils enrichissent. En fait, ils l'appauvrit, j'ai pas bien compris. Mais bon, ils ont trouvé encore un truc sympa à faire avec l'uranium appauvri. L'uranium appauvri, il est très prisé pour sa dureté, sa densité. De plus, il est pyrophorique. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Donc, il est employé comme un arme anti-char, ayant un fort pouvoir pénétrant et incendiaire. C'est ça, le pyrophorique. À très haute vitesse, il perfore aisément les blindages en s'enflammant lors de l'impact, provoquant un incendie qui fait exploser le véhicule visé. Sympa encore. Mais bon, en fait, quand même, malgré tout, si on relativise, un peu optimiste, rapport aux promesses que nous a fait et depuis longtemps l'uranium, tout cela, en fait, c'est un détail à l'échelle de ce que ça concerne. Une merdouille, même, on pourrait dire. Faut-il rappeler que sans radioactivité, il n'y a pas de vie. Mais qu'avec trop, eh bien, il y a moins de vie. Ou alors, il y en a une autre. Alors, de l'uranium, il y en a plein partout, en fait. Il y en a plein les roches, il y en a même plein la mer. Plus de 4 milliards de tonnes dans la mer. Il y en a plein les sous-sols. Mais en fait, c'est ça qui réchauffe la planète. La radioactivité représenterait 87% de l'énergie qui réchauffe les sols, dont une partie par l'uranium, le potassium, radium, chromium, machin. Mais grosso modo, là, on est en train de piquer le chauffage d'en bas pour chauffer en haut. C'est pas sûr que tout cela soit une bonne idée. Mais soyons optimistes, je disais-je. En réalité, nous sommes bombardés en permanence par des particules du rayonnement cosmique, dont certaines nous traversent à chaque seconde. Et alors ? En plus, à travers notre alimentation, ou en respirant, nous assimilons des éléments radioactifs qui ont été produits par les rayonnements cosmiques ou qui sont contemporains de la formation du système solaire. Wow. Nous-mêmes, nous sommes radioactifs. 8000 atomes de potassium 40 et carbone 14 se désintègrent par seconde dans notre corps. Sympa. Bon, en augmentant un peu ces doses, en fait, juste on réduit notre longueur de vie et non pas notre espérance de vie, qui elle peut rester entière, même radioactive. On pourrait même imaginer un âge d'uranium, l'âge d'uranium, vers 56 ans. Comme Becquerel. Fini les vieux, à part quelques planqués. On crèverait tous avant 60 ans. Ça ferait de la place pour les suivants. Ça serait fini de la sagesse de l'âge. Mais en même temps, vu ce qu'elle donne aujourd'hui, on n'y perdra pas grand-chose. Donc voilà, sympa l'uranium. Ça se refroidit en bas, ça se réchauffe en haut, on vit moins vieux. Bah c'est quoi le problème ? Voilà une bonne touche d'optimisme. Allez, encore une petite toune, une autre pour la route. Alors ça là, j'ai trouvé. On peut considérer que c'est Subramanian, Chandra Sekhar, que vous ne connaissez pas, qui avait prévu la formation des trous noirs avant tout le monde. Ça, c'était au début des années 30, les belles années. En découvrant qu'une étoile ayant épuisé son carburant nucléaire devrait s'effondrer sur elle-même. Un tel effondrement gravitationnel peut parfois conduire à un trou noir. Waouh ! Ça, c'est du lourd-lourd. Lourd-lourd comme de l'uranium. On pourrait finir en trou noir. Alors, comme je vous disais, Hiroshima, c'est un peu de la gnognotte. Et puis, un trou noir, en fait, eh ben, ça nous ressemble bien. Hein, bande de trous du cul que nous sommes.
Yeah.
continuer cette émission sur l'uranium, on va aller faire un tour du côté de ce qui se passe en Afrique. Mais avant ça, je voulais juste préciser que l'uranium a d'abord été exploité pendant pas mal de temps en France et qu'il reste des traces de cette exploitation minière de l'uranium, notamment en termes de pollution, à la fois radioactive, mais il faut savoir que l'uranium est aussi toxique en lui, sans parler de la radioactivité, comme peuvent l'être d'autres minerais comme le plomb. L'uranium a donc une grande toxicité qui est aussi donc liée à cette radioactivité, à la radioactivité aussi de tous ces stériles qui sont rejetés. Et donc la COGEMA, qui est devenue Areva en France, a pendant longtemps exploité le minerai. Et aujourd'hui, aussi bien dans la région du Limousin, qui était la plus concernée par l'exploitation minière, que dans d'autres régions comme la Lozère par exemple, il y a des sites qui sont devenus, alors pour certains, des sites touristiques, qui sont chargés de beaucoup de radioactivité liée à l'exploitation de ces mines. Et vous pouvez trouver sur Internet un certain nombre de témoignages, notamment d'anciens mineurs, pour ceux qui sont encore en vie et qui arrivent encore à parler, qui peuvent témoigner sur ce qu'était à l'époque et les conditions de l'exploitation du minerai d'uranium en France, mais aussi sur ce que sont devenus ces stériles et ces déchets de l'industrie minière qui continuent à polluer les sols. Mais à défaut de faire ce constat environnemental en France, on va aller du côté de l'Afrique et plutôt parler un peu de questions économiques et géopolitiques. Alors, il faut savoir que la France exploitait bien entendu déjà les richesses du sous-sol africain pendant et même d'ailleurs avant la période coloniale, mais qu'elle n'a pas cessé ses activités avec les indépendances. Et qu'au contraire, même puisque des accords militaires, des accords monétaires et des accords concernant les ressources ont aussitôt été signés après les indépendances dès les années 60. Et donc, avec la complicité de ces gouvernants qu'elle a elle-même choisis dans ses prétendument anciennes colonies, et grâce à la présence régulière de troupes françaises, de troupes militaires sur tout le continent, la patrie a placé ses pions et donc la mainmise de ces entreprises sur les ressources, tel ce toxique or blanc, l'uranium. L'uranium grâce auquel est aujourd'hui produit plus de 18% de l'électricité dans le monde. Et donc la COGEMA, qui est devenue Areva, est une entreprise dont l'État français est actionnaire à 87%. Elle a d'abord concentré son activité minière en Afrique, essentiellement dans l'Aïr, au Niger. Mais en 2006, Areva s'est dit qu'il fallait diversifier ses ressources, et donc elle rachète notamment la société Uramine, une société qui détient des gisements d'uranium en Namibie, en Centrafrique et en Afrique du Sud. Cette acquisition s'est en fait avérée assez malheureuse pour l'entreprise, puisque les gisements étaient bien moins prometteurs que promis. Depuis, les mines de Bakouma, donc en Centrafrique, de Trékopié en Namibie ont été fermées et les gisements sud-africains ont été vendus. Mais l'achat d'uranimine au cœur de cette affaire a causé donc la perte de 3 milliards d'euros au groupe et donc le licenciement de 6000 personnes. Mais elle est surtout, cette affaire de gros sous, révélatrice d'une continuité dans les politiques coloniales, celle de la France-Afrique, révélatrice de tractations, des tractations sur lesquelles pèsent un certain nombre de soupçons de corruption, et grâce à quelles donc, la société Areva a pu décrocher des licences d'exploitation du minerai. Alors on va d'abord s'intéresser au volet centrafricain de cette affaire. Et on apprend que les responsables du groupe nucléaire, notamment l'ancienne présidente Anne Lauvergeon, sont allés directement négocier avec le président François Bozizé à Bangui en 2008, lequel président a obtenu le versement de 50 millions de dollars. Et on apprend aussi qu'un certain Patrick Balkany aurait joué les intermédiaires et aurait quant à lui perçu 8 millions de dollars qui ont été versés sur un compte à Singapour. Il y a donc une information judiciaire qui est désormais ouverte par la France, qui a été ouverte en mars 2015, sur ces commissions occultes. Et donc cette fois, c'est pas question de diamants, comme sous le règne de Bokassa, mais donc bien de cet or blanc qu'est l'uranium. Et on voit que les pratiques perdurent. Alors à Bakouma, donc dans l'est de la République centrafricaine, le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, a découvert un gisement dans les années 60. Mais l'exploitation de la mine, qui a donc débuté peu après 2008, a été interrompue par le groupe Areva en octobre 2011. Et c'était donc pour des questions de rentabilité, nous dit-on, même si depuis le groupe explique que l'instabilité dans la région expliquerait aussi pourquoi il a arrêté sa prospection d'uranium. Mais ce qu'il faut surtout savoir et retenir, c'est que depuis, rien n'a été fait pour protéger le site, que les populations locales sont exposées donc à la contamination des sols, de l'eau, etc. Et voilà que depuis, eh ben, le président Bozizé, quant à lui, a été renversé par un certain Michel Djotodia en mars 2013 et qu'en décembre, la France a lancé l'opération militaire Sangaris. Une opération qui porte le nom d'un papillon africain aux ailes couleur sang. Couleur sang, une opération qui compte donc un effectif de 2000 militaires désormais en Centrafrique et un certain nombre de plaintes pour viol commis sur au moins une dizaine d'enfants, entre autres exactions. Le président François Bozizé, donc président qui s'est fait renverser, estime avoir été renversé non pas pour l'uranium, mais pour le pétrole, suite notamment à la signature de contrats donc, entre la Centrafrique et la Chine, contrats qui ont été faits au détriment des États-Unis et de la France. Voilà. Alors on va ensuite s'intéresser à la Namibie, où Areva obtient une licence d'exploitation de 25 ans en 2009. Des proches du président namibien se seraient vus attribuer des actions gratuites de la société qui exploite une usine de dessalement d'eau, l'eau qui est nécessaire au traitement de l'uranium sur le site de Trécopier, qui est donc destinée à devenir la plus grande mine d'uranium au monde. C'est en tout cas ce qu'annonçait à l'époque Areva. La Chine est censée acheter 35% de la production. Et on apprend que 440 tonnes d'uranium seulement y ont été extraits jusqu'en 2012, date où la production est gelée par le groupe. Et pour cause, le prix du minerai, en fait, est descendu trop bas. Alors Areva se justifie plutôt en disant que les gisements sont beaucoup moins prometteurs que promis. Mais en fait, bah, c'est surtout dû donc à la baisse des cours de l'uranium. Et donc Areva a également arrêté à la même période le développement d'un site minier à Imouraren au Niger, qu'elle compte toutefois reprendre en 2020. Et voilà, elle compte reprendre cette production, notamment grâce à la vente de centrales à l'Afrique du Sud. Ce qu'il faut savoir que le cours d'uranium qui a donc baissé, et notamment depuis la catastrophe de Fukushima, remonte, et notamment grâce à la relance du parc nucléaire japonais. Mais donc le parc nucléaire sud-africain est assez prometteur pour le groupe français qui compte bien y mettre ses billes et ainsi vendre l'uranium de ce côté-ci. En attendant, donc, les mines sont à l'abandon, mais l'uranium, lui, reste toujours actif et toujours aussi toxique. Alors, pour compléter le tableau, on va rappeler que du temps où le colonel Kadhafi était encore au pouvoir, Areva lorgnait déjà sur l'uranium du sous-sol libyen. Et voilà. Bon. Ensuite, les contacts ont été pris également du côté de la République démocratique du Congo de Kabila. Le groupe lorgne aussi depuis plusieurs années sur le gisement d'uranium de Faléa au Nord Mali. Et là aussi, tiens, la France a envoyé des troupes. En 2011, c'est une entreprise canadienne qui s'appelle Foraco et qui est basée à Marseille, qui s'est ainsi vue mandatée pour des travaux d'exploration et de forage dans la région de l'Azawad, donc au Nord Mali. Le secteur minier malien suscite d'autant plus d'intérêt que les entreprises n'y ont aucune obligation en termes de normes sanitaires et environnementales, et pour cause, le code minier malien ayant ainsi été conçu grâce au concours des ingénieurs des mines français. Alors avant de s'envoler au Mali et au Niger, mais ce sera avec ce numéro 9 de la fabrique des l'oubli, on va faire un petit retour en Namibie, parce que bah, la ville Eni, c'est pas le monopole des entreprises françaises et qu'elle n'a pas plus de frontières que les capitaux. Et donc on va aller faire un tour dans ce désert du Namib, à 35 km de la mine dont je viens de vous parler, qui a été arrêtée par Areva et qui est propriété d'Areva. Il y a une autre mine, une gigantesque mine d'uranium, qui s'appelle Rossing, qui est la propriété du consortium anglo-australien Rio Tinto. Et donc Rio Tinto, c'est un groupe minier qui est l'un des plus importants au monde, qui a été fondé en 1873 et qui porte, c'est assez bien vu, le nom d'une rivière andalouse qui est devenue rouge en raison de la pollution historique liée à l'exploitation des minerais. Le groupe a aussi beaucoup profité de son investissement dans le cuivre de la colonie britannique de Rhodésie, qui est l'actuel Zimbabwe. Son histoire, l'histoire de ce groupe, c'est aussi celle des attaques contre les droits des travailleurs, celle de la destruction environnementale, ouais, pas grand-chose, donc à envie à Areva. Donc cette mine de Rossing, qui appartient à Rio Tinto, est entrée en production en 1976. En fait, l'uranium a déjà été trouvé en Namibie dès 1928. La Namibie était une colonie allemande jusqu'en 1914. Elle est donc en 1976 toujours sous le contrôle de l'Afrique du Sud, Cette mine aujourd'hui embauche 1300 personnes. Nombreux sont ceux qui ont travaillé. Ils sont pour beaucoup morts de cancer ou d'autres maladies liées à l'uranium. Donc parmi ces travailleurs, voilà, beaucoup meurent, mais aussi donc, les populations locales sont également concernées. Lors des forages, par exemple, il y a un gaz radioactif qui s'appelle le radon qui s'échappe. Et une fois dans les poumons, bah, ce gaz provoque systématiquement des cancers. Chaque fois qu'on fait, par exemple, exploser la pierre, il y a un nuage radioactif qui vogue dans le ciel du désert de Namib. Ensuite, donc, quand on fait exploser cette pierre, on la passe sous des portiques qui mesurent la radioactivité. Si elle est trop faible pour être exploitée, on l'abandonne alors sur place. Ainsi, donc, sur ce site de Rossing, en 30 ans, près d'un milliard de tonnes de roches sont déversées sur les terrils. 30 000 tonnes de roches par an. Une roche radioactive mais inutilisable et donc qui est extraite pour être abandonnée sur place. Il y a aussi 250 millions de tonnes de boue radioactive qui sont déversées dans l'ancien lit d'un fleuve. Voilà, tout ça, ça se passe dans le désert du Namib, donc, qui est en partie un parc national. Et voilà, il faut savoir qu'en Namibie, il y a seulement quelques milliers d'agriculteurs qui possèdent 40% des terres. Ces agriculteurs sont essentiellement des Blancs, donc des descendants de colons, des colons. Le désert de Namib, il est situé sur les territoires ancestrales des Nama, qui est un peuple dont la moitié de la population a été assassinée par le colonisateur allemand entre 1904 et 1907. La guerre d'extermination qui a été à l'époque menée par le Reich, donc entre les années 1904-1908, a entraîné la mort également de 80% du peuple héréro. Il y a donc près de 20 000 Namas qui sont morts suite des mauvais traitements et qui donc ont été victimes de massacres, d'expulsions, d'expropriations, de travail forcé, de viols, d'expérimentations médicales, de déportations, d'enfermements inhumains dans des camps de concentration. Voilà, tout ça, c'était bien avant le Troisième Reich et la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a donc une continuité quelque part dans cette colonisation, que la Namibie, qui est le dernier État d'Afrique à avoir acquis son indépendance en 1990, ne fait pas exception puisque la colonisation continue sous d'autres formes, notamment avec le concours d'entreprises françaises telles Areva, mais aussi d'entreprises canadiennes, australiennes ou même chinoises qui, bah, par exemple, exploitent l'uranium. Voilà un exemple parmi tant d'autres pour dire que cette colonisation, ces politiques coloniales qui se font au détriment des populations continuent toujours.
Zimbabwe.
Ouais, vous êtes toujours sur NDChain et l'émission sur l'uranium. Et on va continuer en passant un épisode, l'épisode numéro 9 du nucléaire, la fabrique de l'oubli. Oui. Je sais pas c'est quoi la question, mais je dis oui.
Non, non, t'as fini en fait, Ludo, ouais.
Ouais, ouais.
Bon, écoutez, Bob Marley, c'est pour ça, c'est l'uranium.
L'uranium, ça... Et donc, la fabrique de l'oubli, c'est une série sur le nucléaire. Cette série, le projet, il est né suite à la lecture de deux bouquins. Un qui s'appelle « Oublier Fukushima » d'Arkady Filin et un autre qui s'appelle « La supplication de Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse » de Svetlana Alexievitch. Et en mettant un peu en parallèle ces deux bouquins, il y avait un peu cette idée qui émergeait qu'il y a 25 ans après Tchernobyl, il y avait un peu la même chose qui se jouait, c'est-à-dire que on était gavés d'une bouillie d'informations incessantes sur ce qui se passe, et puis après, au bout de quelques semaines. C'est le blackout, hein. Puis comme toujours, la catastrophe, elle devient un peu obsolète. Fukushima, pourtant la catastrophe de Fukushima comme celle de Tchernobyl, c'est toujours en cours, mais ça, on est habitué en fait à vivre sous la routine de la catastrophe nucléaire. Et du coup, il y a eu l'envie de réfléchir autour de ces deux textes, de ces deux bouquins, d'y réfléchir collectivement, de les partager à d'autres. Il faut aussi savoir que le groupe qui a réalisé cette série documentaire, c'est pas des spécialistes. Et justement, ça c'est un point. Enfin, ça a été un objectif, quelque chose qui était mis en avant, c'est de dire que souvent le nucléaire c'est laissé à des spécialistes. Et non, on peut aussi se réapproprier ces questions et y réfléchir et le critiquer. Et voilà, donc les épisodes d'avant c'était essentiellement sur Hiroshima, sur Fukushima et sur Tchernobyl. Et celui que vous avez écouté, c'est sur l'extraction de l'uranium au Mali, au Niger et en Australie.
Nucléaire, la fabrique de l'oubli. Montage radiophonique en plusieurs épisodes. À travers romans, témoignages, archives sur le nucléaire.
On a perdu le sens de la mesure. La technologie nous a rattrapés. On n'est plus humain.
Immersion en milieu radioactif. Territoire où la catastrophe semble permanente.
Le nucléaire ne peut se développer que s'il est dirigé par des gens non consciencieux, incompétents et irresponsables.
Épisode 9. Piller l'uranium. L'intervention des forces armées françaises au Mali en 2013 soulève la question des intérêts nourris par les pays étrangers dans la région subsaharienne, dont la France. L'énergie est bien souvent le nerf de la guerre et la France produit 80% de son électricité par l'intermédiaire de centrales nucléaires. C'est un cas unique dans l'économie mondiale. La moyenne mondiale est de 18% aujourd'hui. Il lui faut donc de l'uranium pour les faire tourner. Il n'y a pas de site d'extraction d'uranium à ce jour au Mali. Mais cela fait depuis plus de 40 ans que la société Areva prélève à Arlit au nord du Niger l'essentiel de l'uranium utilisé en France dans les centrales nucléaires. Et le nord du Niger partage ses frontières ouest avec la région de Kidal et de Gao au Mali. Les mouvements de population nomades sont importants entre ces zones et ce depuis toujours. Les interactions entre ces régions sont évidentes.
Le Mali fait face à une agression d'éléments terroristes venant du nord, dont le monde entier sait désormais la brutalité et le fanatisme. Il en va donc aujourd'hui de l'existence même de cet État ami, le Mali, de la sécurité de sa population et celle également de nos ressortissants. Ils sont 6000 là-bas. J'ai donc, au nom de la France, répondu à la demande d'aide du président du Mali, appuyé par les pays africains de l'Ouest. En conséquence, les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Cette opération durera le temps nécessaire. Les terroristes doivent savoir que la France sera toujours là lorsqu'il s'agit non pas de ses intérêts fondamentaux, mais des droits d'une population, celle du Mali, qui veut vivre libre et dans la démocratie. Merci.
Si je n'avais pas entendu moi-même cette phraséologie s'étaler à la télévision française, j'aurais eu peine à croire à une telle insolence. La presse française épaule sans la moindre critique, pour l'essentiel, tous les comptes rendus militaires. Le Monde, quotidien libéral de gauche, aussi bien que Libération qui se prétend plus engagé. Il faut donc impérativement énoncer ce que de toute façon chaque personne informée sait depuis longtemps. La France dispose d'intérêts économiques non négligeables en Afrique de l'Ouest. Le plus stratégique d'entre eux est l'uranium du Niger, exploité par Areva, qui alimente plus d'un tiers des centrales nucléaires d'EDF. Mais Areva espère pouvoir exporter son expérience du Niger au Mali, car les formations géologiques se ressemblent beaucoup dans les deux pays. Areva avait donc de fermes projets d'avenir au Mali. Mais voilà que les djihadistes, en occupant le nord du pays, opposaient un frein au développement de ces plans des plus profitables, que l'intervention de l'armée française va désormais se charger de rétablir en exterminant les gêneurs. Dans les comptes rendus occidentaux, les gisements d'uranium sont systématiquement planqués sous la table. Mais la France dépend, en tant que puissance atomique et pays nucléarisé, de son approvisionnement en uranium. Sa dépendance vis-à-vis de ces contrées n'en est que plus forte. Il n'existe pas encore d'exploitation minière dans le nord du pays, mais de considérables richesses naturelles, surtout en uranium, affirme l'experte africaine Gaëlle Arsan en Azawad, le pays des nomades selon l'appellation Touareg du Nord Mali. Des gisements d'uranium se trouveraient entre Gao et Kidal. Peut-on donc encore s'étonner qu'il faille libérer aussi bien la région sise autour de Gao et de Kidal que de Tombouctou pour assurer l'unité du pays ? Outre l'uranium assurément objet du plus brûlant intérêt pour les trusts français, et qui revêt pour l'avenir de l'industrie nucléaire de la France une importance capitale, on trouve encore au nord du Mali des phosphates, du gaz, du pétrole et de l'or. Les phosphates se font de plus en plus rares dans le monde, et l'industrie agricole en a besoin car ils servent à produire des engrais. Et ce Mali paupérisé est déjà de nos jours le troisième producteur d'or d'Afrique.
remémorons-nous au Niger l'enlèvement de 7 employés d'Areva et de la Satom, qui est une filiale du groupe Vinci. Je le rappelle, le 16 septembre 2010, cet enlèvement a été revendiqué par ACMI. Pour rappel, ACMI a vu le jour quand le GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat en Algérie, groupe à l'action localisée en Kabylie à ses débuts, a rallié le mouvement international Al-Qaïda en septembre 2006. Ce groupe s'est ensuite transformé en organisation d'Al-Qaïda au pays du Maghreb islamique, c'est-à-dire ACMI, en janvier 2007. Le GSPC était déjà connu du grand public à travers l'enlèvement d'une trentaine de touristes, mais c'est clairement à partir de son adhésion à Al-Qaïda que le groupe est devenu une menace pour l'Europe et ses intérêts placés en Afrique. Quand l'enlèvement des employés d'Areva et de la Satom se produit au Niger, l'opinion publique française semble soudainement réaliser l'existence de ce pays. Beaucoup ignoraient certainement qu'une bonne partie de l'uranium utilisé dans nos centrales venait du Niger. L'opération Commando menée sur le site d'Arlit révélait les enjeux liés à la protection des intérêts investis par la France, 7e puissance mondiale, dans l'un des pays les plus pauvres de la planète. La présence d'ACMI dans les pays du Sahel entraîne un climat d'insécurité certain par rapport à l'exploitation de l'uranium. Dès le lendemain de l'enlèvement des employés d'Areva et de la Satom, le site d'Imouraren sur lequel travaillaient 600 employés a été déserté. Puis consécutivement à l'enlèvement, Areva a été contraint de sécuriser ses sites. L'avènement d'Areva sur le devant de la scène n'est finalement que le fruit du développement du programme nucléaire en France qui a débuté dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avant la création d'Areva, les deux entreprises, Cogema et Framatome, étaient détenues en majorité par la société CEA Industrie, qui n'est rien d'autre qu'une filiale du Commissariat à l'énergie atomique, le CEA. Ce fameux CEA a été créé par De Gaulle 3 mois après les bombardements à Hiroshima et Nagasaki. Inutile donc de se demander ce qui a motivé sa création, enfin officieusement. Autre chose intéressante, c'est ce même De Gaulle qui a placé Pierre Guillaume au ministère des Armées après sa prise de pouvoir en 1958. Après avoir contrôlé le pétrole, le nucléaire, l'électricité et la défense, Guillaume fonde en 1966 l'entreprise de recherche et d'activité pétrolière, ERAP, qui débouche l'année suivante sur la création d'Alphaquitaine, dont il devient président jusqu'en 1977. Alors qu'il était administrateur au CEA, Guillaume a créé un bureau d'études générales alimenté par les services secrets. Valéry Giscard d'Estaing a d'ailleurs révélé dans ses mémoires que la France a bénéficié d'une coopération secrète avec les États-Unis pour l'élaboration de l'arme nucléaire. Le nucléaire civil n'a commencé à voir le jour sur le territoire français qu'à partir de 1952, avec la construction de 2 réacteurs. Comble de l'ironie, Félix Gaillard, secrétaire d'État à la présidence, annonce à cette occasion à la radio que les nations qui ne suivraient pas la voie du développement atomique seraient dans les 25 ans aussi arriérées face aux nations nucléaires que les peuples primitifs africains le sont face aux nations industrialisées d'aujourd'hui. Selon le site d'Areva, plus de 70% des exportations du pays depuis plus de 5 ans, le minerai d'uranium contribue à l'économie du pays en représentant une part importante du PIB et en participant aux recettes fiscales de l'État. Chaque année, le groupe verse ainsi près de 40 millions d'euros sous forme de taxes, dividendes et contributions à l'État nigérien, auxquels s'ajoutent près de 30 millions d'euros par an pour la masse salariale. C'est assez hallucinant quand on sait que le Niger est le 2e pays le moins développé au monde selon le programme des Nations Unies pour le développement en 2011. Le bénéfice annuel d'Areva tourne autour de 770 millions de dollars, tandis que le budget du Niger est de 320 millions de dollars. Areva est un partenaire historique, mais son monopole est remis en question par l'irruption de la Chine qui convoite également les ressources minières et pétrolifères de la zone saharienne. La Chine doit s'assurer de l'approvisionnement d'une grande quantité de matières premières pour soutenir sa croissance. Aussi, c'est le 14 juillet 2006, à Niamey, que l'ambassadeur de Chine signe avec les dirigeants nigériens l'accord pour l'entrée de la CNUC, la China Nuclear Uranium Corporation, dans l'exploitation des permis de 2 sites situés dans la région d'Arlit et Agadez. L'industrie minière d'exploitation de l'uranium comprend toutes les étapes qui vont de la prospection, en passant par l'extraction, pour finir par la transformation en produit transportable, le yellow cake. Il s'agit d'une poudre concentrée d'uranium de couleur jaune. Ce Yellow Cake fournit les centrales nucléaires en combustible. Il peut aussi entrer dans la chaîne de fabrication d'une bombe à l'uranium enrichi. La prospection comprend les étapes de demande d'autorisation, de conception et d'installation des équipements, la construction des accès pour que l'extraction puisse se faire. L'uranium peut être extrait seul ou avec d'autres minerais, du genre or, cuivre ou phosphate. Quand le site est épuisé, il est démantelé. Les sites uranifères du Niger sont administrés et gérés par deux sociétés de droit nigérien, la Somaïr et la Cominac, dont Areva est l'actionnaire principal et l'opérateur. Actuellement, Arlit est la cinquième des plus grandes mines en exploitation. Les gisements de la région d'Arlit sont de 280 km². Chaque mine possède son usine de traitement et de minerais. Depuis leur création à la fin des années 60, les deux sociétés minières ont extrait plus de 115 000 tonnes d'uranium. Les forages seuls utilisent des procédés polluants. D'un point de vue social, je cite toujours Granvaux, la ville d'Arlit est à l'image de ce qu'Areva a apporté à la région et de la relation qui unit la France au Niger. Même si le personnel d'encadrement subalterne des mines a été, pour des raisons politiques et économiques, progressivement nigérianisé, les classifications et les hiérarchies coloniales ont été reproduites et sont visibles dans l'organisation même d'Arlit, cette ville créée artificiellement en plein désert pour les besoins de l'exploitation uranifère. La ségrégation est flagrante. Dans la cité, Areva a instauré le système des collèges. Il y en a 5 en matière d'habitation. Les MAB, maisons pour agents blancs, qui sont bien nantis avec une prise en charge totale des frais, de l'énergie et de l'eau, suivent les RA, résidences africaines, destinées aux agents africains, constituées de 2 pièces étroites avec de moindres commodités. Et enfin les DA, dortoirs africains, qui sont encore moins bien nantis et qui ne bénéficient que d'un espace très réduit, dépourvu d'électricité et d'eau. Ça, c'est pour ceux qui bossent. Après, Arlit compte également son nombre d'anciens nomades rescapés de la grande sécheresse de 1984 qui vivent dans les quartiers pauvres, les Bouboki, dans des conditions abominables. L'extraction de l'uranium met les travailleurs et les populations en contact avec des éléments radioactifs sur de longues périodes. Areva prétend que les précautions exigées sont respectées. Seulement nombre d'études se sont retrouvées démenties par les ONG telles que la CRIRAD ou Greenpeace. Les certifications délivrées par les bureaux d'études ne permettent pas de rendre compte de la qualité environnementale des exploitations, d'autant que l'évaluation comprend une part d'auto-évaluation qui peut facilement être falsifiée. De plus, l'exploitation des sols nécessite l'emploi de produits chimiques polluants. Après 40 ans d'exploitation, 35 millions de tonnes de déchets sont accumulés à l'air libre pour la plupart. Ces mêmes déchets sont utilisés pour remblayer les routes, voire construire des bâtiments. Des taux anormaux de radioactivité ont ainsi été relevés jusque devant l'hôpital de la Cominac et dans les rues d'Akokan avec des taux de radiation par endroit 500 fois supérieurs à la normale. Une personne passant moins d'une heure par jour à cet endroit serait exposée à une dose supérieure à la dose maximale autorisée. À cela, vous pouvez rajouter une pollution de l'eau, puis de l'air, du fait que le taux d'empoussièrement soit important dans cette région du Niger. Les conséquences d'un point de vue sanitaire sont variées, lésions, cancers, altération de la vision, leucémie, troubles du système reproducteur et digestif. En 2006, les permis d'Agebout et d'Afoudaï qui incluent le gisement d'Imouraren découvert 40 ans auparavant par le commissariat à l'énergie atomique ont été octroyés à Areva qui a aussitôt lancé les travaux de développement nécessaires à l'exploitation de ces sites. En janvier 2009, Areva a également obtenu le permis d'exploitation du gisement minier d'Imouraren et créé la société Imouraren SA en vue de son exploitation. Son capital est détenu à 66% par Areva et 33% par l'État du Niger. En décembre 2009, Areva et KEPCO se sont associés dans le développement d'Imouraren. Cet accord a permis à KEPCO d'entrer de façon indirecte à hauteur de 10% dans la société. La production prévue pour durer plus de 35 ans atteindra les 5000 tonnes par an et permettra au Niger de se placer au deuxième rang mondial des pays producteurs d'uranium en doublant sa production actuelle. Le site d'Imouraren n'est même pas encore prêt à l'emploi que les signes de pollution se font déjà sentir. Les conditions d'exploitation seront sensiblement les mêmes qu'à Arlit, à ciel ouvert donc. Une partie de la population d'Imouraren a d'ores et déjà été priée de partir, pour ne pas employer le mot expropriation bien entendu.
Nos mines sont exploitées et vendues par les pauvres Français qui nous ont colonisés, qui ont colonisé nos ancêtres, nos pères et qui continueront à nous coloniser.
Des milliers de manifestants ont défilé le 12 octobre 2013 dans la cité minière d'Arlit, dans le nord du Niger, contre le groupe nucléaire français Areva. qui exploite depuis plus de 40 ans l'uranium dans ce territoire où vivent et se déplacent traditionnellement les nomades Touareg. Les manifestants, élus locaux et membres de la société civile auxquels se sont joints des habitants, ont défilé dans les rues de la ville en scandant des slogans farouchement anti-Areva. Les milliers de protestataires accusent Areva de polluer l'environnement et de n'avoir fait aucun cas des préoccupations quotidiennes des habitants. Eau d'irrigation et puis contaminée, déchets radioactifs entassés, air chargé de particules radioactives. La stratégie néocolonialiste de l'État français et de ses fers de lance d'affairistes ronge la terre et ses habitants. Azawa Mamam, l'un des organisateurs, dresse un bilan accablant de la présence du groupe nucléaire français sur le sol nigérien, depuis près d'un demi-siècle.
La population a hérité de 50 millions de tonnes de résidus radioactifs stockés à Arlit. Et Areva continue de pomper gratuitement 20 millions de mètres cubes d'eau par an, pendant que la population meurt de soif. Les rues et les habitations d'Arlit sont construites à l'aide de résidus radioactifs. Et la nappe phréatique usée et contaminée s'assèche par la faute d'Areva.
La manifestation qui a regroupé quelques 5000 personnes veut montrer
que nous en avons assez de cette domination et de soutenir le nouveau gouvernement dans ses prochaines discussions avec Areva au sujet des ressources du pays.
A précisé Azawa Mamam. Le Premier ministre du Niger, Brigi Raffini, a précisé le 6 octobre dernier que son pays allait passer au peigne fin ses contrats miniers avec Areva, jugeant le partenariat pour le moins déséquilibré. Le mouvement des Nigériens pour la justice, mené par des Touaregs, a lancé un mouvement de rébellion en février pour demander une plus grande autonomie de la région nord du pays, où est extrait l'essentiel de l'uranium nigérien. Une première rébellion Touareg avait eu lieu au début des années 90. Elle avait pris fin en 1995 par un accord de paix qui n'avait pas été totalement respecté par le gouvernement. Ce dernier refuse de négocier avec les rebelles, qu'il n'hésite pas à qualifier de trafiquants de drogue et de bandits. Un attentat-suicide avait fait le 23 mai 2013 un mort et 14 blessés parmi les employés d'Areva, tous nigériens, sur le site de la Somaïr. La production du site minier avait été suspendue, arrêtée, et n'avait pu reprendre que 3 mois plus tard, alors que le groupe nucléaire espérait ouvrir d'ici 2 ans une nouvelle mine géante à Imouraren, contre laquelle se battent les populations locales et nomades. Depuis des mois, les manifestations, notamment de jeunes, se multiplient, tant contre le renforcement des dispositifs policiers et militaires à Niamey pour protéger les ambassades occidentales, que contre les activités du lobby nucléaire français.
Nous sommes très en colère. Ces barrières nous empêchent de nous rendre au centre-ville par la voie naturelle. Nos ambulances et corbillards sont obligés de faire de longs détours.
A expliqué un habitant à l'AFP qu'il précise qu'ils en ont assez des tracasseries et contrôles sécuritaires humiliants. Fin 2012, l'Observatoire du nucléaire révélait que la loi de finances 2013 du Niger, alors étudiée par l'Assemblée nationale de ce pays, qui est supposée être indépendant après avoir été colonisée par la France jusqu'en août 1960, venait d'être subitement modifiée par le ministre des Finances. Cette intervention, probablement illégale, a consisté à rajouter au budget national la somme de 17 milliards de CFA, environ 26 millions d'euros, offerte au Niger par la société nucléaire française Areva, dont 10 milliards de FCFA, plus de 15 millions d'euros, directement affectés à l'acquisition d'un avion pour le président du Niger, Monsieur Issoufou. L'organisation de veille sur le nucléaire déclarait « Il s'agit donc clairement d'une manœuvre de corruption, probablement sur le plan légal, assurément sur le plan moral par Areva, qui entend ainsi perpétuer sa mainmise sur les réserves d'uranium du Niger pour continuer à alimenter les centrales nucléaires françaises. Par l'intermédiaire d'Areva, anciennement la COGEMA, la France pille l'uranium du Niger depuis des décennies. » S'octroyant ce minerai à un prix ridiculement bas, tout en causant de graves dommages à l'environnement et en nuisant aux populations locales. Il n'est acceptable de voir Areva attribuer de son propre chef une somme au Niger comme un généreux donateur venant au secours d'un déshérité. et ce, d'autant plus que la majeure partie de cette somme est d'ores et déjà affectée à l'achat d'un équipement de luxe et de prestige pour le président du Niger. L'opposition démocratique du Niger, regroupée dans l'Alliance pour la réconciliation nationale, avait dénoncé cette manœuvre. Le président du Niger, M. Issoufou, est un ancien directeur de la Somaïr, filiale d'Areva. Son prédécesseur, Mamadou Tandja, a été renversé en 2010. Ayant fait modifier la constitution du Niger afin de rester au pouvoir, il n'avait lui-même rien d'un grand démocrate. Mais il avait aussi commencé à résister à l'ancien colonisateur français, jouant de l'intérêt des Chinois pour l'uranium afin de faire augmenter le prix payé par Areva. Il n'est donc pas surprenant que M. Tandja ait été renversé et remplacé par un employé d'Areva.
Bravo pour la France, félicitations pour Areva, dommage pour les Touaregs. La France se glorifie, à juste titre, de sa nouvelle victoire. Une performance qui lui a permis de signer un contrat fort alléchant avec la Chine pour la fourniture de 2 réacteurs nucléaires EPR. Au mois de septembre, c'est avec la Libye que le géant du nucléaire Areva vantait ses prouesses, en promettant d'importants bénéfices au profit de la France. Quant à nous, Touareg du Nord Niger, à chaque tournant de cette implacable tourmente, la sueur froide est de mise. Il y a quelques mois de cela, je disais: aujourd'hui, les Touaregs s'inquiètent de la distribution tous azimuts de permis de recherche et d'exploitation d'uranium sur leur territoire sans que ne soit envisagée aucune mesure de compensation visant à en amortir les conséquences. Les tribus concernées devront quitter les lieux à la recherche d'hypothétiques territoires d'attache et de nomadisation. Les ressources exploitées donnent à l'État les moyens de les combattre, les maîtriser et les réduire à l'état de réfugiés dans leur propre pays. Cet acheminement, hélas fatal, du fait de la logique géopolitique et des intérêts des uns et des autres, amputera l'humanité d'un des éléments uniques de sa richesse, la culture Touareg. Une culture basée sur un code de conduite morale imposé à chacun dans la perspective d'affronter les conditions d'une vie saharienne austère et rudimentaire. La situation est d'autant plus complexe que les permis d'exploitation ont été attribués à des pays comme la Chine qui, malheureusement, n'a aucune politique de respect pour les communautés locales, et encore moins pour l'environnement, constituant leur cadre de vie. Leur méthode, espèce sonnante et trébuchante, intéresse en revanche les gouvernements de ce monde. C'est dans cette logique infernale qu'un conflit armé a éclaté dans le Nord Niger, avec la création d'un mouvement des Nigériens pour la justice. Du fond de leur désert, ils luttent pour se faire entendre, alerter la planète, et tenter de dénoncer cette situation, afin de sauver ce qui peut l'être. Face à eux, l'État nigérien décide de les anéantir. Il crée les conditions d'un affrontement sans précédent et refuse toute idée de dialogue. Les libertés individuelles sont confisquées. Les débats contradictoires sont interdits. Les radios internationales sont suspendues. Les journaux indépendants sont menacés et certains supprimés. La région Touareg est déclarée en état d'urgence et l'armée s'arroge le droit d'emprisonner, torturer et tuer au besoin sans aucune forme de procès. La communauté internationale passe sous silence cette situation contraire à la Déclaration universelle des droits humains. Le schéma qui se dessine devient très préoccupant, et même d'une extrême gravité. En effet, la partie septentrionale du Niger regorge d'impressionnantes ressources minières, uranifères et pétrolifères. Les populations, disséminées dans ce désert, sont désormais perçues comme une véritable entrave dans la perspective de l'exploitation massive de cette manne. L'énergie nucléaire, dans sa fulgurante ascension d'énergie propre, devient plus que jamais un jeu planétaire. De la même manière, la montée progressive du prix du baril rend le pétrole nigérien économiquement intéressant. Que représente une poignée de nomades totalement absents du système économique mondial devant de tels enjeux? Les grandes puissances de cette planète vont alors laisser le dictateur faire le ménage afin de s'en prendre à l'énergie propre dans un environnement propre, c'est-à-dire dégagé de toutes ses populations. Le tour est joué. Le gouvernement nigérien et les puissances étrangères auront tiré leur épingle du jeu. 3 mois plus tard, ce schéma se confirme, inexorablement. On connaît parfaitement les conséquences néfastes des 2 permis d'exploitation octroyés il y a 40 ans à la France pour l'extraction des gisements d'uranium à Arlit et à Kokan. La population, nomadisant dans cet espace, a été contrainte de partir sous d'autres cieux. La faune a totalement disparu. Les nappes phréatiques sont polluées. La population fait face à de sérieux problèmes de santé publique. Cette année, l'État du Niger a octroyé 122 permis d'exploitation d'uranium. En superposant la carte du Nord-Niger et les limites géographiques des concessions, on se rend compte de la catastrophe qui se prépare. Pollution des nappes phréatiques, destruction des aires de pâturage, spoliation des terres des éleveurs, élimination des puits pastoraux et bouleversement de la gestion pastorale. Qu'en est-il de la déclaration des droits des peuples autochtones adoptée en septembre à l'ONU? Notre monde a-t-il le droit de laisser passer sous silence la destruction de tout un peuple dont le crime originel serait d'habiter un Sahara, jadis inculte mais devenu immensément riche? Souhaitez-vous vraiment que le peuple Touareg disparaisse à jamais si cela permettait à votre économie de bien se porter? Acceptez-vous de participer à travers la politique de votre pays à la mort d'une population innocente, sous prétexte que ça vous permet d'éclairer vos maisons et de cuisiner sur une plaque chauffante? Les Touaregs n'ont d'autre choix que de se battre ou disparaître. Un choix fort douloureux qui les a amenés à prendre les armes et à risquer leur vie. L'armée nigérienne, qui a le soutien matériel de la France, de la Chine, des États-Unis, vient de lancer une offensive sur l'Aïr, dans le but de nous réduire au silence. Nos hommes tentent de la contenir avec des moyens bien moins importants. Nous sommes déterminés à défendre nos terres, car c'est une question d'existence. Déterminés et rassemblés, nous réussirons à empêcher à toutes ces sociétés de s'installer chez nous, sans notre consentement. Encore une fois, sont mis en balance, et de manière flagrante, la richesse matérielle et la valeur humaine. La réalité est là, inutile de se voiler la face.
Lorsqu'on parle d'énergie nucléaire, comme pour le reste, on oublie souvent l'Australie, le pays down under des dépliants pour backpackers. Le continent est pourtant le troisième pays fournisseur d'uranium, derrière le Kazakhstan et le Canada. Il dispose surtout des plus larges réserves de ce métal au monde, entre 23 et 40% selon les estimations. Un immense marché qui le place au centre des convoitises. Aux grandes fins, les grands moyens. Depuis plus de 50 ans, les compagnies minières étrangères et australiennes, largement soutenues par les gouvernements successifs, mènent une guerre latente contre les aborigènes en vue d'exploiter l'uranium présent sur leurs terres. L'histoire de l'Australie est celle d'une colonisation à marche forcée, qui, d'excuses officielles en signature de traité à l'ONU, n'a jamais vraiment pu sortir des conceptions racistes qui l'ont fondée. Elle s'est développée autour du mythe de la Terra Nullius, une terre qui n'appartiendrait à personne. Les colons, évidemment, conscients de la présence de populations aborigènes, ont targué que ces peuplades étaient trop primitives pour être considérées comme les véritables propriétaires et usagers de leurs terres. De même, face à l'absence de structure hiérarchique identifiable pour les colons, le gouvernement britannique s'est contenté d'expliquer qu'il ne pouvait pas trouver un interlocuteur responsable pour discuter propriété foncière. En 1906, la première mine d'uranium est inaugurée en Australie du Sud, pour un usage médical et sous la bucolique appellation de « colline du radium »,« Radium Hill ».
To spend Christmas on Christmas Island. How- like to spend a holiday away across the sea?
À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les puissances occidentales entrent dans la course à l'arme nucléaire et s'intéressent de près aux réserves en uranium. Le gouvernement anglais et américain conclut un accord avec Canberra. Ils achèteront tout l'uranium extrait en Australie et coopéreront aux opérations d'exploitation. Dans les années 50, deux nouvelles mines sont ouvertes dans ce cadre. Rum Jungle, territoire du Nord, et Mary Catlin, Queensland. Comme Radium Hill, elles fermeront après avoir été épuisées. Toutes laissent derrière elles un désastre écologique et humain. L'Australie, Terra Nullius, terrain de jeu pour Européens, est aussi le lieu tout indiqué pour les essais nucléaires à ciel ouvert. En pleine guerre froide, c'est donc vers elle que se tourne le Premier ministre britannique lorsqu'il souhaite doter son pays de l'arme nucléaire. Des essais sont menés sur trois sites, les îles Montebello, Emu et Maralinga, à l'ouest et au sud du pays. À Maralinga, plusieurs centaines d'essais mineurs auraient été organisés, étalés sur une dizaine d'années. Négociés au plus haut niveau entre Londres et Canberra, court-circuitant le Parlement australien, ces essais sont tenus dans un secret à peu près absolu, sur les terres des peuples Pijantjadjara et Yankunijadjara, qui, sous-informés, en sont les premières victimes contaminées. Malgré le mythe d'une colonisation pacifique et sans résistance, les luttes des peuples aborigènes n'ont jamais cessé. Parallèlement aux offensives industrielles, la contestation s'est à peu près organisée. Plusieurs mouvements, initiés notamment par la main-d'œuvre exploitée du milieu agricole, ont gagné en puissance. Ils aboutissent en 1976 à la rédaction de l'Aboriginal Land Rights Act, qui reconnaît aux aborigènes du territoire du Nord le droit de disposer de leurs terres, à la condition de prouver une connexion traditionnelle avec celle-ci. Près de la moitié de la superficie de cette région revient alors aux mains des colonisés. Néanmoins, en référence à une loi de 1953 portant sur l'énergie atomique, le Commonwealth s'était garanti la propriété de l'uranium dans le territoire du Nord, y compris sur les terres aborigènes. Les aborigènes, propriétaires de leurs terres, mais non du minerai qu'elles contiennent, n'ont que le pouvoir d'autoriser, approuver ou réguler de nouvelles mines. En 2007, une série de mesures d'exception, regroupées sous le nom de Northern Territory Emergency Response, ou intervention, tombent donc à point nommé pour reprendre la main sur les terres aborigènes dans le territoire du Nord. Prétextant d'un rapport au sujet de supposés abus sexuels sur les enfants dans les communautés aborigènes, l'État fédéral envoie sur place 600 soldats. La loi contre les discriminations raciales de 1975 est suspendue. L'intervention prévoit également que des terrains soient acquis de force pour une durée de 5 ans et suspend le système de permis d'accès qui permettait aux aborigènes de contrôler l'accès physique à leurs terres. Il faut dire que la mise en place de ces mesures intervient après le refus par des communautés, dont les Yolngu, de louer leurs terres à l'État pour 99 ans en échange de la construction d'une poignée de logements. Une partie importante des ressources australiennes en uranium se situe sur 73 communautés concernées par l'intervention. Au cœur du parc national de Kakadu, dans le territoire du Nord, le peuple Mirar ne semble pourtant pas avoir saisi tout l'intérêt des bénéfices durables offerts par la mine de Ranger, imposée sur leur territoire dans les années 70. Yvonne Margaroula, une des traditional owners du site, témoignait en 2005 lors d'une enquête parlementaire sur l'uranium en Australie, des ravages environnementaux, mais aussi de la destruction de son peuple, du fait de l'exploitation des ressources locales. La mine d'uranium a complètement bouleversé nos vies, amenant une ville, beaucoup de personnes non aborigènes, un accès plus facile à l'alcool, et beaucoup de disputes entre aborigènes, surtout à cause de l'argent. La mine nous a aussi dépossédés de notre pays et l'a détruit. Des bras de rivière, et des criques ont disparu à jamais. Là où avant il n'y avait que le bush, il y a maintenant des montagnes de pierres empoisonnées et d'énormes trous emplis de boue toxique. Je n'aime pas me rendre à Ranger et voir ce qui est arrivé au pays de mon père. Energy Resources Australia Limited, l'actuel opérateur de Ranger Mine, s'intéresse à un autre site, Jabiluka, qui appartient également au Mirar. En 1998, en pleine période de crise du marché, due à la baisse des prix de l'uranium, une action de blocage qui a duré 8 mois et sur laquelle plus de 500 personnes ont été arrêtées a fait stopper les travaux. En 2011, les Mirar ont demandé l'inclusion de Jabiluka dans le parc national de Kakadu, ce qui rendrait impossible toute activité minière sur le site. Mais il n'est pas sûr que les aborigènes aient le dernier mot dans tous les combats. L'Australie exporte actuellement vers le Japon, la Corée du Sud, la Chine, Taïwan, l'Europe et l'Amérique du Nord. Et les pressions sont énormes. Seulement un mois après l'explosion de Fukushima, Martin Ferguson, ministre des Ressources et de l'Énergie, chantait avec une ferveur redoublée les louanges du nucléaire. Il espère voir quadrupler la production australienne en uranium d'ici 20 ans et appelle les États de Nouvelle-Galles du Sud et du Victoria à revoir leurs lois prohibant les mines d'uranium et la prospection sur leur sol. En 2008, l'Australie occidentale a décidé de lever cette interdiction pour de bon. Sourde à la catastrophe nippone, les compagnies minières n'ont pas perdu de temps. Aujourd'hui, 5 mines seraient en attente de permis et 45 sites en cours d'exploration. L'exploitation des ressources naturelles d'un pays, sous couvert de missions civilisatrices ou d'aide au développement, est un discours qui, ici comme ailleurs, n'a jamais vraiment cessé d'être commode. C'est du sur-mesure pour l'industrie du nucléaire, qui n'hésite pas à se salir les mains pour imposer ses activités aussi nocives que rémunératrices, contre la volonté de populations privées de voix. Demain, ce sont les peuples aborigènes de Mukati qui risquent d'en faire les frais. Leur village a été désigné pour accueillir un site d'enfouissement de déchets nucléaires. Où mieux se débarrasser des déchets de nos sociétés civilisées qu'au milieu de nulle part, dans une terra nullius habitée par personne? Nucléaire, la fabrique de l'oubli. Montage radiophonique en plusieurs épisodes. À travers romans, témoignages, archives sur le nucléaire.
On a perdu le sens de la mesure. La technologie nous a rattrapés. On n'est plus humain.
Immersion en milieu radioactif, territoire où la catastrophe semble permanente.
Le nucléaire ne peut se développer que s'il est dirigé par des gens non consciencieux, incompétents et irresponsables.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur lafabriquedeloubli.noblog.org.
Voilà, Stan Deschênes avec cet épisode 9 du numéro de la Fabrique de l'oubli sur l'uranium. Et voilà, on vous a emmené un peu au Niger, en Namibie, ou en Australie ou au Mali.
Zimbabwe.
On aurait pu aussi vous parler du Kazakhstan, qui est le plus gros producteur mondial d'uranium avec 20% des réserves et qui vient de créer une banque d'uranium faiblement enrichie. On aurait pu aussi vous amener en pays inuit, puisque là-bas aussi, les convoitises sur le minerai sont nombreuses. Et puis aussi, par exemple, du marché noir de l'uranium. Bref, il y a quand même pas mal de sujets encore à explorer, à aborder, pour voir en quoi ce minerai, finalement, a des répercussions assez importante, voilà, notamment en termes de guerre, de conflit, et ça rejoint plein d'autres sujets qu'on aborde sur les ondes de ND Chaîne, puisque qui dit envoi de troupes et de bombes dit aussi déplacement de population, par exemple.